franceinter.fr.
Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Une journée meurtrière dans les Alpes où deux avalanches ont fait trois morts dans le massif des Aravis et à Val d'Isère où un père et sa fille de 12 ans skiaient sur une piste fermée. Le statu quo n'est pas possible à la SNCF. À la veille du début des discussions, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, précise le point de vue du gouvernement en jugeant le rapport Spinetta, remis jeudi dernier, sévère mais juste. Les syndicats s'inquiètent, les régions également. La saga Le Pen qui s'envenime au père Jean-Marie qui crie de nouveau à la trahison, la fille Marie répond qu'il ferait n'importe quoi pour exister, ce qui est aussi le souci de Florian Philippot, dont le parti Les Patriotes tenait aujourd'hui son congrès fondateur. Au Proche-Orient, le nouvel avertissement de Benjamin Netanyahou à l'Iran. Le Premier ministre d'Israël menace d'intervenir directement contre l'Iran ou ses alliés si besoin. En sport, journée faste au JO pour les Français avec une héroïque médaille d'or de Martin Fourcade, vainqueur d'une demi-chaussure dans la mass start du biathlon. Deux médailles de bronze de ce dimanche également pour Alexis Pinturo dans le slalom géant et pour le relais masculin du ski de fond. En rugby, 19 à 12 pour le Racing qui recevait La Rochelle à Nanterre. Victoire de Castres à Bordeaux 7 à 6. Et puis en Ligue 1, à l'instant, le match nul entre Lyon et Lille. À Lille, 2 partout. Match nul entre Nice et Nantes, 1 partout. Dans un instant, le journal des sports avec Sébastien Hazard. Et puis la météo, une moitié nord et ouest sous la pluie. Demain matin, un temps maussade qui gagnera la région parisienne dans l'après-midi. La neige tombée en abondance sur les massifs ces dernières semaines reste dangereuse. Un père et sa fille de 12 ans sont morts aujourd'hui à Val d'Isère, emportés par une avalanche. Un randonneur à ski a également été tué dans le massif des Aravis. Nathalie Grinspan.
À Val d'Isère, un père de 44 ans et sa fille de 12 ans ont été emportés par une avalanche alors qu'ils skiaient vers 13h à 2930 mètres d'altitude sur le glacier du Pissayas, la partie haute du domaine skiable, mais sur une piste fermée. La mère de famille également présente n'a pas été emportée. Ce sont les pisteurs secouristes de Val d'Isère qui ont retrouvé les deux victimes décédées. Dans le massif des Aravis, un homme de 30 ans originaire de Maurienne a gravi à ski de randonnée depuis la station de Manigaud, le sommet de l'Étale, qui culmine à 2483 mètres entre Haute-Savoie et Savoie. Une corniche a cédé sous son poids et le skieur a chuté sur plusieurs dizaines de mètres. L'homme a été retrouvé au pied de barres rocheuses sur la commune de la Gieta et les secours n'ont pas pu le réanimer.
Deux randonneurs ont par ailleurs été blessés dans le Valais en Suisse où plusieurs avalanches ont été signalées ce dimanche. L'occasion de rappeler l'extrême prudence qui reste de mise en montagne où demain encore de la neige est annoncée dans les Pyrénées. Le bulletin un météo, ce sera dans un instant. Le début de la bataille du rail, pour reprendre le titre du JDD ce matin, c'est demain que les grandes manœuvres commencent autour de la SNCF, demain que le Premier ministre Édouard Philippe reçoit les dirigeants de la compagnie nationale, avant que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ne rencontre les syndicats un par un. La ministre qui confirme tout le bien qu'elle pense du rapport Spinetta remis au gouvernement jeudi et dont le diagnostic, dit-elle, est sévère mais juste. Quant à ses propositions, notamment la transformation des deux établissements publics de la SNCF en sociétés anonymes et l'abolition progressive des avantages statutaires des cheminots, ces propositions-là sont à discuter. Pour la CGT, c'est déjà tout vu. Philippe Martinez, qui dénonce un projet de casse du service public, appelle à la grève le 22 mars. Quant aux régions, également inquiètes sur l'avenir des petites lignes, elles attendent de voir. À l'image d'Hervé Morin, le président de la région Normandie, président des régions de France, il est au téléphone d'Isabelle Labéry.
Pour vous donner une idée, est qualifié de petite ligne une partie de la ligne entre Paris et Granville, par exemple, pour la Normandie, ou entre Alençon et Le Mans. Donc ce sont des lignes qui ont, en termes d'aménagement du territoire, des rôles absolument considérables. Et on ne peut pas considérer que c'est simplement parce qu'il n'y aurait que 2% de nos compatriotes qui sont transportés qu'on devrait les fermer, parce qu'on oublie qu'il y a, pour ces zones rurales, un moyen de transport absolument stratégique qu'est le ferroviaire. La question, c'est améliorer la qualité et faire en sorte que ce soit à des coûts comparables à ce qui existe en Europe. Et donc, la question, c'est faire en sorte que la SNCF soit plus compétitive et plus performante, assure une qualité de service qui soit digne, et on sait que pour cela, il faut l'ouverture à la concurrence. Et donc la question, c'est est-ce que le gouvernement aura le courage d'amener l'ouverture à la concurrence dans des conditions où le ferroviaire français est comparable au ferroviaire européen. Si on est capable de faire cela, ça veut dire que ça va nous coûter beaucoup moins cher, et donc on sera capable d'investir dans l'amélioration du réseau ferroviaire, dont je rappelle que s'il est dans cet état, c'est parce que l'État l'a abandonné depuis 20 ans.
En politique, la famille Le Pen continue de régler ses comptes en public. C'est d'abord le père, Jean-Marie, qui ne veut rien changer au parti dont il n'est plus que le président d'honneur et prétend participer malgré tout au prochain congrès. C'est ensuite la fille Marine qui lui répond « Non papa, ou plutôt non Jean-Marie, tu n'es pas le bienvenu ». Élodie Forêt, les sagas familiales, c'est toujours compliqué.
Oui, ça se complique encore avec ce nouvel épisode. Une lettre ouverte adressée à Marine et signée « Ton père ». Mais n'y voyez rien de personnel, c'est bien à la présidente du FN que Jean-Marie Le Pen écrit pour demander devant les Français à pouvoir participer au prochain congrès en mars à Lille. Le ton y est presque menaçant, il promet la bagarre de rue si on l'empêche d'entrer.
Si on m'empêche de vivre force, si on brime ma liberté et ma sécurité, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de membres du congrès qui n'accepteraient pas que l'on bouscule le président fondateur et qu'on empêche d'entrer au congrès, je crois. Je mets en garde contre ce risque.
Une mise en garde, oui, mais avant tout, une main tendue, dit Le Pen père. En visite à Lens ce dimanche, Marine Le Pen n'a pas été convaincue.
Non mais ça n'est pas une main tendue, c'est une manière pour Jean-Marie Le Pen d'exister. Donc je ne rentrerai pas dans ces provocations multiples et variées. Les choses sont extrêmement claires et je les répète. La justice dit Jean-Marie Le Pen n'est plus adhérent. C'est donc clair que la justice indique qu'il ne peut pas venir au congrès.
Une fin de non-recevoir qui n'émeut pas l'entourage de Jean-Marie Le Pen. Qu'elle le veuille ou non, il viendra à Lille. Pourquoi faire ? Ma liberté est totale, sourit le fondateur du FN.
Et ce désamour peut aller très loin, voir ce propos de Jean-Marie Le Pen qui dit en parlant de sa fille « C'est mon sang qui coule dans ses veines, elle ne pourra rompre ses liens avec moi qu'en se suicidant ». Hasard du calendrier ou pas, c'est aujourd'hui que les patriotes de Florian Philippot tenaient leur congrès fondateur, un peu éclipsé du coup par la famille Le Pen. 5 mois après son départ du Front National, l'ancien numéro 2 du parti dénonce un FN embourbé qui a renoncé au pouvoir et ne cherche plus qu'à faire vivre sa petite boutique. Florian Philippot qui réaffirme son projet de sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Les patriotes qui vont devoir se faire une place entre le FN et les Républicains, lesquels du point de vue de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, lorgnent de plus en plus vers l'extrême droite. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy condamne à nouveau la dérive de Laurent Wauquiez qui pourrait être, dit-il, l'un des membres de la famille Le Pen. C'est la même tonalité, la même violence du Le Pen et même du Trump, dit-il. Pour Xavier Bertrand, les déclarations du président des Républicains aux étudiants d'une école de commerce de Lyon. C'est la trumpisation de la vie politique, ce que ne pense pas son ex-collègue du gouvernement Éric Woerth, député républicain de l'Oise, qui ne va pas si loin dans la critique tout en critiquant.
Moi, je ne fais pas partie de l'équipe dirigeante des Républicains, donc je suis assez libre de ma parole. Je ne partage pas ce que dit Laurent. Sur Gérald Darmanin, je ne le partage pas. Évidemment, sur Nicolas Sarkozy, je ne le partage pas. Et si j'approuve pas, ça me choque pas non plus. Je trouve que ça casse pas à trois pattes un canard. Des propos, comme Laurent Wauquiez sait les tenir, c'est-à-dire assez forts. On en parle depuis hier, mais il y a des sujets plus importants. Après, qu'il faille mieux éviter de recommencer ce type d'exercice et de se laisser probablement un peu trop aller, oui, on n'a pas besoin de diviser. Il n'y aurait pas ces propos, ce serait peut-être mieux d'une certaine façon. Donc je ne crois pas que ça concourt au rassemblement des Républicains et je pense que d'autres taperont beaucoup plus fort que moi. Il y a une question qui est l'utilisation d'enregistrements sauvages. Je ne sais pas s'il faut légiférer, mais enfin en tout cas, tout ça est interdit. Là, c'est pas une fake news, mais la méthode en elle-même est une méthode qualifiable.
Éric Woerth, ce midi sur France 3.
France Inter, Yves Decaen.
Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou remet une pièce dans la machine contre l'Iran. Une semaine après les dernières escarmouches, un drone iranien abattu dans l'espace d'Israël, un avion de chasse israélien abattu par les Syriens. Le Premier ministre israélien a mis à nouveau l'Iran en garde. Invité ce matin de la conférence sur la sécurité à Munich, c'est en brandissant un morceau de drone qu'il a redit sa détermination à ne pas laisser Israël la corde au cou. Marine Vlahovic.
Voilà un bout du drone iranien. Vous le reconnaissez ? S'est exclamé Benjamin Netanyahou en interpellant directement le ministre iranien des Affaires étrangères, qu'il a accusé au passage de mentir avec éloquence. Javad Zarif a ensuite dénoncé un cirque caricatural qui ne mérite pas de réponse digne de ce nom. Ne testez pas la détermination d'Israël, a également martelé le Premier ministre israélien. Une semaine après les tensions entre l'État hébreu et l'Iran en Syrie, et malgré l'appel au calme de la Russie, Benjamin Netanyahou a semble-t-il décidé de hausser le ton. Nous interviendrons si nécessaire, non pas seulement contre les alliés de l'Iran, mais contre l'Iran lui-même, a-t-il menacé. Une passe d'armes qui laisse de nouveau craindre une escalade du conflit, même si jusqu'ici les deux pays ont soigneusement évité une guerre directe sur la scène syrienne, la confrontation est ouverte. Jérusalem, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
En Syrie, justement, les Kurdes ont annoncé aujourd'hui la mort de deux combattants étrangers, dont un Français, breton d'origine, Olivier-François Leclinche, âgé d'une quarantaine d'années. Il avait rejoint les Kurdes l'été dernier dans leur combat contre le groupe État islamique, mais c'est à l'offensive de l'armée turque qu'il faisait face depuis bientôt un mois dans la région d'Afrine au nord de la Syrie. En Iran, probablement pas de survivants dans l'accident d'un avion des lignes intérieures ce matin au sud-ouest du pays, un ATR 72 disparu des écrans radars en pleine tempête de neige. Il y avait 66 personnes à bord. Les secours n'ont pas encore pu accéder au point exact du crash. La belle histoire du soir, c'est l'histoire d'un poilu enterré un siècle après être tombé au combat, le sergent Claude Fournier, dont le squelette a été retrouvé à Verdun il y a moins de 2 ans, et qui sera inhumé mercredi à l'ossuaire de Douaumont, dans la Meuse. Son petit-fils assistera à la cérémonie, lui qui ne savait rien de son grand-père il y a seulement quelques mois. Mao de Butler.
Tout commence il y a 3 ans, en mai 2015. Des travaux au nouveau mémorial de Verdun permettent de déterrer 3 squelettes de poilus. L'un d'eux semble correspondre à une plaque d'identité militaire retrouvée un peu plus loin. Cette plaque, elle appartient à Claude Fournier, un sergent tombé au champ d'honneur à 35 ans le 4 août 1916. Jardinier, père d'une petite fille, Claude Fournier était originaire de Colombier en Brionnais. Et justement, le maire de cette commune de Saône-et-Loire entend parler de la découverte un siècle plus tard. Il se demande aussitôt si le sergent Fournier a des descendants. Des recherches généalogiques révèlent alors l'existence d'un petit-fils, Robert Allard, installé dans le sud de la France. Contacté, Robert Allard tombe des nues, mais il faut encore prouver le lien de parenté. Il accepte de se soumettre à un test génétique, et là, petit miracle, l'analyse confirme que le sergent Fournier est bien son aïeul. C'est une première, jamais un soldat français de 14-18 n'avait été identifié par son ADN.
Les enfants de Colombier-en-Brionnais feront également le déplacement en compagnie du maire dans le cadre d'un travail de mémoire. 80 000 soldats ont été portés disparus à Verdun sur une zone de 10 000 hectares. À Dieppe, toujours aucune explication pour l'explosion d'hier dans l'usine de production d'huile. Le maire de la ville avait invité les riverains à se retrouver en fin d'après-midi près du site pour rendre hommage aux 2 techniciens décédés dans l'accident, en espérant ne pas ajouter au drame humain un drame économique, car cette usine Saipol emploie 40 salariés. Pour le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, qui s'est rendu sur place, aucune pollution n'a été constatée, mais il faut attendre l'enquête pour envisager la suite. C'était une figure emblématique du cinéma africain. Le réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouédraogo est mort ce matin à Ouagadougou. Auteur d'une quarantaine de films, il avait notamment été récompensé par un prix du jury à Cannes pour Tilaï, la transposition d'une tragédie grecque dans l'Afrique contemporaine. Idrissa Ouédraogo avait 64 ans. Sur les routes du dimanche soir, Laurent Bord, d'une nationale coupée dans le Cantal.
Oui, il s'agit de la nationale 122 entre Figeac et Messiac, qui est coupée dans les deux sens au niveau du Rouget à cause d'un accident impliquant 2 véhicules. Une déviation locale a été mise en place. Et puis, on reste en région. Attention, si vous circulez dans l'est de la France, puisqu'un piéton est signalé aux abords des voies sur l'A4 entre Paris et Strasbourg, en direction de Strasbourg, au niveau de Saint-Avold, c'est en Moselle, redoublé de vigilance dans ce secteur. En région parisienne, la circulation est chargée en direction de Paris sur 1 km, sur la 13 au niveau du péage de Buchelet à hauteur de Mantes-la-Jolie, et puis la circulation est également ralentie sur la 10 en direction de Paris au niveau du péage de Saint-Arnoult.
Laurent Bord, PC Mobilité de Radio France, la météo.